Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers.
Malheureusement, je veux dire une chose. Moi, quand je vais à des conférences sur la Palestine, il n'y a que des vieux blancs de 40, 50 ans, 60 ans de l'AFPS, Action France Palestine Solidarité, qui sont là, quoi. Où est-ce qu'on est ? Où nous, est-ce qu'on est en tant que jeunesse musulmane en France pour les Palestiniens. Où ? On est présent, voilà, pendant quelques jours. Et ensuite, dès que les tensions ne sont plus là, eh ben, on retourne à notre vie normale, on change de photo de profil et on attend la nouvelle effusion de sang pour crier notre colère.
Dans cet épisode, j'accueille Yanis Arab, doctorant à l'Université de Montréal sur l'immigration algérienne en Palestine. Yanis est très actif pour la cause palestinienne. À seulement 27 ans, il a déjà écrit 2 livres à ce sujet. Lors de notre échange, Yanis nous raconte d'où lui vient cet intérêt prononcé pour la cause palestinienne, les recherches qu'il effectue actuellement, et nous aide à décrypter la situation actuelle en Palestine et les actions concrètes que chacun peut entreprendre pour contribuer à son niveau.
Si demain tu es face à un sioniste avec ses arguments, qu'est-ce que tu vas dire ? Vive la Palestine libre ? Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Comment est-ce que tu vas déconstruire ces mensonges ? Il faut d'abord les connaître, donc il faut lire.
Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Yanis.
Wa alaikum salam, Abdelrahman.
Comment vas-tu ?
Alhamdulillah, et toi ?
Très bien, très bien. Aïd Moubarak.
Aïd Moubarak, wa l'amou anta bikhir, et à toi et à toute ta famille.
Merci, toi aussi.
Et merci encore pour cette invitation.
Je t'en prie. J'en profite pour dire Aïd Moubarak à tous les auditeurs aussi, parce que je sortirai cet épisode ce week-end. Donc Aïd Moubarak à tout le monde, que Dieu accepte nos efforts, Inch'Allah. Yanis, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ?
Oui, alors je m'appelle Yanis Arab, j'ai 27 ans. Je suis étudiant à l'Université de Montréal, donc en doctorat d'histoire. Ma thèse porte sur les migrations algériennes en Palestine. Sur les Algériens qui ont vécu en Palestine à l'époque contemporaine, donc entre 1830 et 1948. Voilà.
Ok. Donc, tu es basé en France, à Grenoble, et tu fais ta thèse à distance ?
C'est ça. Pour l'instant, ouais. Okay. Au-delà du Covid, c'est qu'on n'a pas de, séminaire en présentiel pour ce trimestre-là. Donc, ouais, je suis actuellement à Grenoble, donc au domicile familial. En tout cas, à côté de Grenoble, à Moiran, une petite commune.
Ok, pas trop bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais, de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette thèse et à t'intéresser à la cause palestinienne et aux Algériens de Palestine ?
Oula, bah c'est tout d'abord, déjà par rapport à la question palestinienne, comment est-ce que je me suis intéressé ? En tout cas, comment j'ai commencé à militer, parce que l'intérêt a toujours été là. Depuis qu'on est petit, en général, on a de l'intérêt pour la question palestinienne, pour les Palestiniens. Moi, depuis que je suis petit, voilà, je veux dire, c'est un peu notre biberon à tous, tu vois. Et bon, jusqu'à mes 20 ans, j'avais quand même quelques idées, mais c'était très flou. Hein. Moi, à l'époque, je faisais que du basket. Et après mon bac ES, je suis allé en STAPS et ça ne me plaisait pas trop. Je me posais des tas de questions et je décidais de me réorienter donc, en fac d'histoire. Et donc, en 2014, le massacre à Gaza, puisque c'est un massacre, appelons ainsi, à Gaza, et comme débute le 8 juillet 2014 et finit le 26 août 2014. Donc, une guerre, selon Israël, qui avait pour but de détruire les tunnels reliant la bande de Gaza et aussi l'Égypte, mais aussi qui donne sur les territoires israéliens, mais qui avait pour réel objectif de détruire le gouvernement d'unité nationale qui avait été formé quelques temps auparavant entre le Hamas et le Fatah. Et donc, Durant ce massacre, il y avait plusieurs manifestations, notamment à Grenoble et un peu partout dans la France. Et je me suis rendu à un de ces manifestations le 2 août 2014, exactement à Grenoble. Et à l'issue de cette manifestation, j'ai rencontré un Palestinien qui était étudiant à Grenoble, qui venait de soutenir sa thèse en physique à l'université de Grenoble. Et il était étudiant à Grenoble depuis 2009. Lui est né à Gaza en 1987, donc quelques mois avant l'intifada qui éclate le 11 décembre 1987. Et donc, c'était l'une des premières fois que j'ai rencontré un Palestinien. J'avais 20 ans, j'étais hyper, à la fois hyper ému, hyper déstabilisé, etc. Et du coup, je l'ai invité à manger à la maison, donc chez mes parents, avec un ami. Et cette rencontre a marqué, on va dire, le prélude à mon engagement pour la question palestinienne, parce que cet ami est devenu véritablement un frère. Il m'a raconté ses mémoires à Gaza entre 87 et 2009, une période charnière dans l'histoire dite du conflit entre guillemets israélo-palestinien. Donc lui, né le 4 avril 87 à Gaza, dans quelques mois avant l'intifada, la première intifada qui éclate le 8 décembre 1987 à Jabalia, donc un camp de réfugiés palestiniens à Gaza, et qui va faire l'effet d'une tache d'huile et embraser l'ensemble des territoires palestiniens occupés, donc Cisjordanie, Jérusalem-Est. Et il me raconte donc ses mémoires à partir de la première intifada, lorsqu'il a 5 ans, il se souvient des soldats israéliens qui rentrent dans son école et qui jette des bombes à gaz lacrymogène. Et lui, pour se protéger, se met des oignons sur lui pour ne pas respirer le gaz lacrymogène. C'est une initiative plutôt courante chez les Palestiniens de prendre des oignons lorsqu'il y a des bombes à gaz lacrymogène pour ne pas inhaler ce gaz-là. Donc il revient sur ses mémoires tout au long de ces 22 années terrible à Gaza. Donc le retour d'Arafat en juillet 1994 à Gaza, avec la création de l'autorité palestinienne qui a au début son siège à Gaza puis à Ramallah, la sortie des colons en 2005 à Gaza, donc la fin dite de l'occupation militaire, mais qui va se poursuivre à travers une autre forme, c'est-à-dire le blocus, un blocus qu'il a vécu, les tensions internes entre le Hamas et le Fatah qui vont atteindre leur paroxysme en juin 2007 et qui vont se matérialiser par une bipartition de fait entre ce que les experts appellent un Hamastan à Gaza et un Fatahstan en Cisjordanie et le massacre de Gaza entre le 27 décembre 2008 et le 17 janvier 2009, durant laquelle plus de 1 400 Palestiniens vont être tués, principalement des civils, des enfants, des femmes, et dont 5 membres de sa famille, donc son oncle Amr, sa tante et ses 3 petits cousins. Et il va être le témoin de ces massacres, puisqu'il va lui-même récupérer les corps. Et donc ça a été très terrible pour lui, ça a été un événement traumatisant. Mais malgré tout, 10 jours après le massacre, il passe ses examens à l'Université islamique de Gaza, donc son diplôme de génie civil. Il obtient, le 3 février 2009, la mention excellente avec les honneurs. Excellente avec le 3 mars plutôt 2009, il obtient son diplôme, donc avec la mention excellente avec les honneurs. Et moi, lorsque j'ai vu son parcours, et plus tard son parcours aussi à Grenoble, puisqu'il va obtenir une thèse, il va avoir la mention excellente, j'étais subjugué, j'étais étonné par sa force, son endurance face à ses épreuves, sa résilience. Et je me suis dit, wow, il faut écrire quelque chose sur ces mémoires-là, c'est hyper inspirant. Au début, je voulais écrire un article, puis je me suis dit que j'allais en faire un livre finalement. Et donc, c'est le premier livre que j'ai écrit, donc Un pas vers la paix, mort d'un jeune Palestinien, revient donc à la fois à travers le parcours de ce jeune Palestinien. Je m'intéresse à la société palestinienne entre 1987 et 2009, et j'y donne un message d'espoir. J'ai dit que voilà, même si la paix semble verrouillée, selon moi, seule l'éducation en est la clé. Donc, à travers ce vécu-là, j'en tire un enseignement moral. Et le second livre, donc le premier livre, je l'ai publié lors de ma, j'avais 21 ans, donc lors de ma première année la première
De
année
l'essence.
de licence, ouais. Et puis éclate ce qu'on appelle l'intifada des couteaux en septembre 2015, qui va faire aussi des centaines de morts, en Cisjordanie principalement,
Des couteaux?
puisqu'il n'y a pas. Oui, ils appelaient ça à l'époque l'intifada des couteaux, c'est-à-dire que les Palestiniens poignardaient des colons, des soldats, etc. Et on a surnommé ça l'intifada des couteaux. Bon. Ce n'est pas une intifada dans le sens où c'est une révolte palestinienne, mais ce n'est pas une grande intifada comme la première et la seconde, c'est-à-dire la première entre 87 et 93 et la seconde entre septembre 2000 et environ 2005. Et donc, face à ces événements-là, à cette intifada des couteaux et toujours, même à l'époque, pareil aujourd'hui, une désinformation totale où on taxe les Palestiniens de terrorisme, où on inverse les causes et les effets, où on parle d'opérations de représailles, de Pegulot Tagmoul en hébreu, on impute la responsabilité aux dirigeants palestiniens, voire même aux Palestiniens, on met sur le même pied d'égalité le colon et le colonisé. Et face à tous ces discours qui alimentent cette injustice-là, je me suis dit, bon, il s'en est trop, et puis je vais écrire, je vais matérialiser ma colère. Et donc j'ai écrit une première introduction. Je ne pensais pas en écrire un livre, parce qu'après moi, mon premier livre, je me suis dit, bon, j'arrête là, quoi. D'autant plus que je me considérais pas du tout comme un écrivain. Mais je me suis dit, bon, je vais écrire parce que j'ai besoin de matérialiser cette colère et de la calmer. Du coup, j'ai écrit, et puis une introduction, un chapitre, puis un autre, et un autre. Et puis
Ça
voilà,
fait un
donc
livre.
voilà, le second, je l'ai auto-édité, en Palestine pour une paix juste. C'est un essai historique dans lequel j'essaie de déconstruire les mythes fondamentaux autour de la question palestinienne en mobilisant donc des travaux sur cette question, évidemment, et aussi en mobilisant des travaux déjà existants, mais aussi en tentant aussi de m'inscrire dans toute cette historiographie et de donner mon propre point de vue sur la situation, notamment sur le sionisme. J'ai un grand chapitre sur ma critique du sionisme à la fin du livre. Donc c'est un essai historique divisé en sept grands chapitres dans lequel voilà, j'essaie de déconstruire les mythes fondamentaux autour de la question palestinienne, à travers différentes thématiques, donc la Palestine de l'Antiquité à nos jours, la question du sionisme, de ses idéologies, de son rapport avec le judaïsme. La question de la Nakba palestinienne. Est-ce que les Palestiniens ont fui délibérément sous l'appel des dirigeants arabes en 1948? Ont-ils été chassés? Donc, je reviens brièvement sur cette partie, mais très importante, puisque là encore, on le voit aujourd'hui, la question des réfugiés récemment a été oblitérée, même dans l'actualité. La question de Gaza, de son âge d'or, un grand chapitre sur Gaza, de son âge d'or à son blocus, un chapitre sur la colonisation israélienne des territoires palestiniens, de 67 à 2015, 2016. La question notamment de la critique d'Israël est-elle légitime ou est-ce qu'on a le droit de critiquer Israël? Donc, c'est une question que je me pose. À laquelle je réponds à travers différentes sous-parties, et un autre chapitre sur Tsahal, l'armée israélienne, où je démonte là aussi les mythes fondamentaux autour de Tsahal comme l'armée la plus morale au monde, en mobilisant notamment des témoignages d'anciens soldats israéliens que
Que
j'ai.
tu as rencontré ou que tu as trouvé.
Ah non, 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 je n'ai pas rencontré des soldats israéliens, même si j'ai appris l'hébreu et que j'ai déjà parlé à des Israéliens, mais j'ai
Tu parles
pas.
hébreu? Tu comprends l'hébreu?
Oui, je parle et j'ai déjà fait des vidéos d'ailleurs où j'avais adressé un message à Netanyahou qui avait fait à l'époque 500 000 vues, je pourrais te la montrer.
Ok, je veux bien.
Ouais, et du coup, non, c'est des témoignages que je mobilise, que j'ai retrouvé dans un livre très intéressant qui s'appelle Le Livre Noir d'occupation israélienne, publié par les éditions Autrement en 2013, préfacé par Ziv Sternel, un historien, un intellectuel israélien qui se considère comme sioniste. Mais on pourra revenir aussi sur les différentes variantes au sein du sionisme. On a des sionistes dits de gauche qui réclament un État palestinien, non pas pour les Palestiniens et pour leurs droits, mais au nom même du sionisme dont il faudrait un peu sauver son esprit originel. En gros, pour faire court, pour Ziv Sternel, Amos Oz, David Grossman, etc., il faut mettre fin à l'occupation des territoires palestiniens. Il s'oppose au retour des réfugiés. Pour eux, mettre fin à l'occupation, en tout cas la pérennisation de l'occupation, irait à l'encontre des intérêts du sionisme et d'Israël. Donc il faut y mettre un terme, car Israël, je dis bien Israël, court à sa perte, va à sa perte en maintenant sa domination sur les Palestiniens, etc. Donc, ils ne le font pas au nom de l'équité, au nom de la justice, ils le font au nom des intérêts du sionisme. Donc, voilà. Après, il y a d'autres franges israéliennes, et je reviens sur ces franges israéliennes, on a une frange plus anti-sioniste, anti-colonialiste, très, très minoritaire. Déjà, même les sionistes qui critiquent l'occupation sont considérés comme des traîtres, alors les anti-sionistes sont considérés comme des traîtres des traîtres. Donc, je reviens sur ces différences-là, en fait. Et donc, à la fin, oui, j'ai une partie sur voilà, ma critique du sionisme, dans lequel, en gros, je dis que la problématique du sionisme, finalement, parce que les sionistes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent le sionisme, c'est la montée vers Sion, c'est l'établissement d'un foyer juif pour le peuple juif. En fait, la problématique, et je le dis, ce n'est pas le fait qu'il y ait eu un État juif. La problématique, c'est que cet État juif a été créé dans une région où il y avait des gens. Voilà, je résume ça, où il y avait des gens et que la Palestine n'a jamais été une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et je rejoins cette critique, notamment d'un juif iranien qui est cité par Esther Benbessa dans un livre aux éditions du CNRS, Être juif après Gaza, où elle cite un juif iranien en 1917, professeur à Isfahan. Il dit: « Je suis plutôt opposé au sionisme s'il doit entraîner la dépossession des Arabes de Palestine. » Et je rejoins cette critique, c'est-à-dire que je critique le sionisme, non pas dans ce qu'il veut, mais dans les conséquences de sa réalisation dans l'histoire. Si la Palestine avait été une terre sans peuple pour un peuple sans terre, si la Palestine avait été vide de Palestiniens, s'il n'y avait pas 1 300 000 Palestiniens en 48 libres aux sionistes de créer leur État, je veux dire, s'il n'y a personne, yallah, faites-le. Mais le problème, c'est qu'il y avait une population palestinienne. Cette population palestinienne a été spoliée, a été chassée de ses foyers. Et c'est ça qui est le pire, c'est que l'expulsion a été pensée par l'ensemble des dirigeants sionistes comme un prérequis indispensable au projet sioniste. Donc, il n'y avait pas d'autres possibilités. Les dirigeants sionistes savaient qu'il fallait expulser pour créer cet État juif. C'est là où il y a une faute morale. C'est là où il y a une faute morale. Et je le dis clairement. Dans ce livre, c'est une constante. C'est-à-dire, c'est une constante, même aujourd'hui, à Shajara, des gens qui disent qu'ils reviennent, des gens qui habitent Brooklyn, qui sont à Brooklyn, qui sont là en France, etc., qui viennent coloniser des habitations palestiniennes, habitées par des Palestiniens, et qui disent, voilà, nous faisons notre montée version, notre aliyah. La problématique, ce n'est pas que vous la faites, votre alia, mais c'est qu'elle se fait au détriment de milliers de Palestiniens. C'est ça la problématique. Et donc voilà, ça c'est le second livre que j'ai publié ma dernière année de licence, qui est disponible notamment, bon, on en reviendra, mais qui est disponible à l'achat. Donc j'incite les gens à ne pas acheter sur Amazon, même s'il y a un stock sur Amazon, qui n'est pas mis par moi, mais qui est mis par Amazon. Donc moi, je l'avais auto-édité sur Amazon donc il y a quelques années, mais ce que je fais depuis quelques temps déjà, c'est que j'imprime un stock. Et donc j'ai un stock à la maison et j'incite les gens à passer directement par moi pour l'achat du livre, pour l'envoi. Parce que Amazon se fait sur les 20
Grosse
euros du
marge.
livre, grosse marge, environ 15 euros. Et l'achat du livre, moi, voilà, moi, j'ai jamais écrit pour m'aménager un succès littéraire sur le dos des financiers, sur le dos des Palestiniens. Qu'Allah m'en protège, ça m'a jamais intéressé, ni la notoriété, ni l'argent, surtout sur cette thématique-là. Moi, ça me permet, à l'heure actuelle, de financer mon doctorat. Donc, ma recherche. Donc là, je vais y venir sur mes recherches universitaires.
Avant qu'on arrive sur le point de recherche universitaire, ça demande beaucoup de volonté, de détermination pour écrire un livre en licence. T'as pas senti de difficulté à écrire ça à ce moment-là de...
Bah, quand je relis le livre, le premier livre, j'ai un peu honte des fois des expressions que j'utilise. Mais si je pouvais réécrire certaines choses, je le referais. En fait, ça m'est paru comme un devoir, en fait. Quand j'ai entendu ces mémoires, quand j'étais tellement subjugué, étonné, ça m'a tellement inspiré, et que je me suis dit, bon, il faut que j'en fasse quelque chose. Et puis j'ai dit à tout le monde que j'allais écrire un livre. Donc, c'était trop tard, je ne pouvais pas faire marche arrière. Et du coup, ouais, ça sort un peu de la norme, tu vois. Mais moi, pour moi, j'avais cette possibilité-là, j'avais ce témoignage-là, d'autant plus que j'ai aussi des documents dans son livre. J'ai des documents de ses diplômes, etc., des lettres, notamment des lettres de recommandation. Donc c'était à la fois, ouais, ça sort un peu des normes, mais à la fois c'est un exercice pour moi en tant qu'étudiant en histoire, dans lequel c'est un livre de mémoire et j'alterne mémoire et histoire. Et je mobilise aussi des documents de première main. Et donc ça a été un exercice tout à fait intéressant pour moi, en tant qu'étudiant en histoire, et qui s'inscrivait dans ma formation d'historien. Du coup, non, non. Le deuxième livre, c'était plutôt une thérapie pour moi, je pense. Une thérapie, un moyen d'extérioriser cette colère, de la mettre par écrit. Et vraiment, j'ai écrit ce livre pour déconstruire et démonter toutes ces mensonges autour de la question palestinienne qui m'exaspéraient et qui sont toujours d'actualité.
C'est bien, tu l'as
C'est un
transformé
livre.
en énergie positive.
Oui, voilà,
C'est plus
clairement. Je veux
intéressant que
dire,
juste de se plaindre.
c'est ça, c'est clair. Non, non, la colère est une énergie en fin de compte. Et puis, si on arrive à la transformer en tant qu'énergie positive, c'est tout à fait louable.
Je te laisse continuer sur tes travaux actuels.
Ouais. Alors, après ma licence d'histoire, donc à Grenoble. Moi, j'ai voulu continuer donc toujours sur la question palestinienne et m'orienter dans la recherche. Et à Grenoble, il n'y avait aucun spécialiste de la question palestinienne. On m'a dit qu'il faut que tu ailles à Paris. Bon, j'aime pas vraiment Paris, mais j'avais pas vraiment le choix. Et puis j'ai pris contact avec une directrice de recherche, donc un master, Madame Véronique Bontemps, qui est anthropologue et spécialiste de la société palestinienne, et qui était professeure à l'EHESS. Donc je prends contact avec elle et au début je ne savais pas sur quelle thématique je voulais travailler, on a discuté. J'avais lu un livre à cette époque en mai 2017 sur les familles endeuillées palestiniennes et leur rencontre avec d'autres familles endeuillées israéliennes. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas travailler sur cette thématique-là, d'autant plus que ça m'aurait amené à me rendre en Palestine. Et bon, je dis pourquoi pas. Et puis je pars en Algérie donc en juin, début juin, 10 juin 2017. Et j'avais eu écho à mon entourage qu'il y avait qu'une ambassade palestinienne, notamment à Deir el-Ibrahim. Moi, j'habite à Ain Benyen, donc dans la banlieue d'Alger. Et à Deir el-Ibrahim, Ain Benyen, c'est pas très loin, c'est une dizaine de kilomètres. Et je me suis dit, bon, j'ai appelé l'ambassade, j'aurais dit, j'aimerais bien rencontrer l'ambassadeur. Lui remettre un de mes livres, notamment, donc en français. Bon, il comprend pas le français, mais en tout cas de rencontrer des Palestiniens en Algérie et de pourquoi pas agir en Algérie pour la cause palestinienne. Parce que je voyais qu'en Algérie, on y reviendra après, qu'il y avait une telle passion pour les Palestiniens mais que cette passion, des fois, paralysait nos actions. Et j'avais besoin d'agir en conséquence et entre guillemets, de pouvoir remédier à cela, si on veut, en tout cas en apportant ma pierre à l'édifice, si je pouvais. Donc, je me suis rendu à cette ambassade palestinienne où j'ai rencontré des Palestiniens. L'ambassadeur m'a invité pour un ftour et j'étais très étonné de découvrir donc des familles, de nombreuses familles palestiniennes qui vivaient en Algérie soit depuis l'indépendance ou récemment, mais surtout depuis l'indépendance, donc des anciens notamment militants, des anciens professeurs qui sont restés en Algérie, puisque les autorités algériennes, au moment de l'indépendance algérienne, ont recruté parmi les Palestiniens des coopérants arabophones. Donc, il y avait environ plus de 1 500 à 2 000 enseignants palestiniens, tout en Algérie, dans toute l'Algérie, dans les 48 wilayas avant 1990. Une grande partie d'entre eux sont retournés dans la société palestinienne ou dans les pays voisins après les accords d'Oslo. Donc, voilà. Et ensuite, certains sont restés. Donc, il y a environ 200 enseignants palestiniens qui sont restés en Algérie. Et des militants, des étudiants, mais les étudiants, c'est une communauté un peu renouvelée. On a plus de centaines d'étudiants qui viennent en Algérie chaque année, d'autres qui repartent, etc. Et donc, voilà, et donc, il y a environ plus de 6 000 Palestiniens qui vivent en Algérie aujourd'hui. Et donc, le consul, l'ambassadeur m'a dit, bon, pourquoi pas ne pas écrire sur les Palestiniens en Algérie. Je lui dis, écoutez, pourquoi pas, il faut que j'en parle à ma directrice de recherche. Mais je lui dis que moi, ça serait un grand honneur, d'autant plus qu'il n'y a jamais eu d'études empiriques sur ces expériences palestiniennes en Algérie. Donc, pour moi, c'était aussi un défi scientifique, une aubaine aussi. Et donc, j'ai appelé ma directrice, je lui ai dit, voilà, je veux travailler sur les Palestiniens en Algérie. Elle était d'accord, très intéressée. Donc, ma première enquête de terrain en Algérie, entre le 14 septembre 2017 et le mi-octobre 2017, tous les jours, je me rendais à l'ambassade de Palestine, à Tel Ibrahim. Je rencontrais des familles palestiniennes, donc à l'ambassade, dans la salle d'attente, des étudiants. Et au cours de mes enquêtes, j'ai pu rencontrer notamment des Palestiniens min usul Jazeera, comme ils se disaient. Nous, Palestiniens min usul Jazeera, nous sommes des Palestiniens d'origine algérienne. Donc, moi, au début, je me posais la question, je me disais, mais comment ça, Palestiniens d'origine algérienne, vos parents sont mixtes, enfin, oui, vous êtes issus d'un couple mixte, d'un mariage mixte, c'est-à-dire un Palestinien et généralement une Algérienne. C'était très courant, enfin, très courant. La norme, c'était l'endogamie, si on veut, c'était les mariages entre Palestiniens, mais il y avait des mariages mixtes. Et moi, je pensais quoi là? Leur mère était algérienne et leurs parents, leur père palestinien. Ils disaient non, non, nous ne sommes pas, nos parents sont algériens, nos grands-parents sont algériens, nous sommes des Algériens, des Palestiniens d'origine algérienne. Nous sommes nés en Syrie, au Liban, etc. Et nos arrière-grands-parents, grands-parents ont quitté la France, l'Algérie au moment de l'occupation. Et ils ont pris refuge, ils sont installés en Palestine et ils ont été de nouveau chassés en 1948 avec les Palestiniens. Et nous, nous sommes revenus après l'indépendance au 62 ou encore récemment après la guerre en Syrie. Et nous sommes là en Algérie. Et je vois un militant, j'en vois un autre. Je dis, waouh, c'est très intéressant, mais j'avais quand même, je sais pas, pour moi, c'était des Palestiniens. Ils parlaient le dialecte palestinien, ils parlaient le. Ils étaient travaillés à l'ambassade de Palestine. Je ne voyais pas ce qu'ils avaient d'Algérien, en fait. Je ne voyais pas cette singularité. Mais je les croyais, évidemment. Je veux dire, leurs grands-parents étaient Algériens, ils ont été chassés, etc. Très bien. Sauf qu'un jour, je me rends donc à Sidi Fradj, qui est donc un centre d'accueil pour réfugiés palestiniens et syriens, donc à 15-20 km à l'ouest d'Alger, en direction de Tipaza. Et j'y vais, et là je rencontre une personne âgée qui est née en 1942 en Palestine. Il montre sa carte d'identité algérienne. Bon. Et il me dit, moi, je suis algérien. Je dis, OK. Et le pire, c'est qu'il se met à parler en kabyle. Je suis moi-même kabyle, donc je comprends. Il se met à parler en kabyle. Il avait des difficultés à parler parce qu'il avait... il s'était fait opérer je pense, la trachée, il avait beaucoup de mal à communiquer, mais il comprenait le kabyle lorsqu'on lui parlait. Et du peu qu'on entendait, il parlait un kabyle très, 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 très bon, quoi. Alors qu'il est né en Palestine en 1942, il a vécu ça après 48 en Syrie. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que oui, ce sont bien des Algériens et que bon, et que d'un côté, tout dépend des expériences. On a une érosion de la langue chez certains au profit du dialecte arabo-palestinien, alors que d'autres ont pu garder leur langue d'origine, le tamazight, notamment pour les émigrés kabyles, puisque la majorité des Algériens qui ont pris refuge en Palestine étaient kabyles, surtout dans le milieu rural. Dans les villes, c'est un peu un grand mélange. On a des Algériens de Kabylie, de la Grande Kabylie, des Algériens de l'Est, des Algériens de l'Ouest, des Algériens du Sud, et voilà.
D'accord. Donc, ton travail actuel, il porte sur les transferts, les voyages, les exodes entre les Algériens et les Palestiniens.
C'est ça, et en tout cas, ça, c'était mon étude de master. Donc, ma thèse, actuellement, c'est sur les Algériens qui ont vécu en Palestine à l'époque contemporaine, c'est-à-dire depuis l'indépendance, depuis le début de l'occupation en Algérie française, 1830. Les bornes chronologiques ne sont pas encore à ce stade, je suis en première année, bien déterminées, mais c'est surtout cette période-là, 1830, 1948, 1962. Donc, je m'intéresse aux migrations algériennes vers cette région et surtout vers la Palestine, l'ancrage algérien en Palestine, et jusqu'en 1948. Donc il y avait environ 5 000 Algériens en 1948 qui ont été chassés vers les camps de réfugiés, par la suite vers avec le peuple palestinien, donc vers le Liban, la Syrie, la Cisjordanie, la Jordanie. On a tout un matériel archivistique sur ces émigrés algériens, dans la mesure où parmi ces Algériens, il y avait beaucoup d'Algériens qui étaient protégés français, c'est-à-dire qui vivaient, qui étaient inscrits dans les ambassades françaises, donc dans la région, donc en Palestine, à Safa, des Tibériades, à Jaffa, Haïfa, Al-Quds, Jérusalem.
Donc, c'est les
Et.
Algériens, pendant la colonisation française, qui étaient en dehors de l'Algérie, qui étaient sous protection de l'État français, en théorie.
Sous protection, en théorie, parce qu'ils ne vont pas être protégés en 48, ils vont être chassés. Mais bon, c'est une thématique très, très, très vaste, la question de même de l'immatriculation, puisqu'on a des gens qui sont immatriculés parce que leurs parents étaient immatriculés ou parce que voilà, pour leurs intérêts. Et donc, parmi ces Algériens vont être chassés. Et on a d'importants témoignages que j'ai retrouvés dans les archives, donc à Nantes, où sont conservés les fonds des représentations extérieures à la France, et des témoignages notamment d'Algériens qui vont littéralement prendre d'assaut les ambassades françaises au lendemain de leur éviction, et qui vont dire, voilà, et qui vont se faire les vecteurs du récit palestinien en disant, voilà, nous avons été chassés par les milicianistes vers les camps de réfugiés en Palestine, au Liban, en Syrie, au Liban, et même à l'intérieur des territoires palestiniens, des territoires actuellement israéliens, sous contrôle israélien notamment, ce qu'on appelle les territoires de 48, même des Algériens qui sont expulsés vers Gaza. On a même à l'époque des demandes de rapatriement vers l'Algérie. Donc voilà, on a un grand matériel archivistique qui vient mettre en lumière des expériences tout à fait inédites. Voilà, et donc je m'intéresse à ces expériences-là, donc dans le cadre de cette thèse.
Ok, super intéressant. Je ne savais même pas qu'il y avait une exode, il y avait une population algérienne qui vivait.
Bah, c'est très méconnu, c'est très méconnu de la société algérienne, parce que bon, même dans les manuels scolaires, on n'en parle pas, on parle des grandes révolutions, on parle de la résistance, on ne parle pas de ceux qui à l'issue de leur résistance, ont été chassés,
Oui.
puisque l'exil, c'est surtout un exil au moment de l'occupation française de l'Algérie, l'émigration vers le Cham, vers les terres d'islam, est une, comme le rappelle Kamel Kateb, un historien algérien, est une conséquence directe de la colonisation. C'est pas une petite promenade. Bon, après, il y a d'autres trajectoires. Tu as des gens qui partent faire le Hajj et qui, à l'issue du Hajj, passent par Jérusalem et décident de rester en Palestine.
Est-ce que c'est en partie pour ça que les relations entre l'Algérie et les Palestiniens sont si fortes?
Il y a cet aspect-là. Mais le plus grand aspect à prendre en compte, c'est l'idée que les deux peuples, les deux pays ont traversé un épisode similaire, un trauma similaire, c'est-à-dire le colonialisme, et donc il y a une compréhension mutuelle entre les deux peuples. Ouais, et c'est surtout ça, hein, c'est surtout ça, ouais. Et d'ailleurs, c'est ce que rappelle Jean-Paul Chagnolleau dans son livre Maghreb et Palestine, où il dit, en gros, il dit, voilà, si l'Algérie est plus proche des Palestiniens, donc il dit ça à la fin des années 70, mais c'est toujours d'actualité, hein, si l'Algérie est plus proche des Palestiniens que la Tunisie et le Maroc, c'est principalement en raison du fait que le colonialisme a été beaucoup plus fort en Algérie que dans les deux autres pays. Et voilà, faut pas avoir une lecture tout à fait chauvine ou tout à fait nationaliste de la chose. C'est seulement que voilà, on a un héritage spécifique. Il y a une colonisation en Algérie qui a été bien plus forte. Et c'est à l'épreuve, à l'aune de ce colonialisme, de l'intensité de ce colonialisme, que se mesure l'intensité du soutien algérien à l'endroit des Palestiniens après l'indépendance.
Au moment où on se parle, on est le 14 mai 2021, à la sortie du Ramadan. Les Palestiniens sont en plein conflit avec les Israéliens. En termes d'intensité par rapport au précédent conflit qu'il y a eu ces dernières années, ces dernières décennies, à quel niveau on en est actuellement?
En toute sincérité, l'intensité, on a vu pire en termes d'intensité. Rien qu'en 1956, je parlais du massacre de novembre 1956, donc à la bande de Gaza, la première occupation qui va durer quelques mois jusqu'en mars 1957. On a déjà un massacre qui va marquer la population palestinienne, notamment même des leaders du Hamas, Abdelaziz Al-Rantissi, l'un des fondateurs du Hamas, qui dit que lors de ces massacres-là, en novembre 1956, les Israéliens nous ont mis la haine au cœur. Et donc, en termes d'intensité, on a vu pire. En 2009, le premier jour de l'opération Plomb durci, une seule journée, c'est 300 Palestiniens qui sont tués. 300, une journée. La guerre, entre guillemets, hein, je parle, c'est pas une guerre, hein, c'est un massacre, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et je parle aussi du conflit sémantique dans mon livre, l'inversion sémantique, notamment, palestinien, résistant terroriste, opération de représailles, etc. On a 1400 personnes qui sont tuées en 20 jours, à peine 20 jours, le 28 décembre 2009, 2008 et le 27 décembre 2008 et le 17 janvier 2009. 1400 Palestiniens. On a 2200 Palestiniens qui sont tués entre le 8 juillet 2014 et le 26 août 2014. On a des centaines de Palestiniens qui sont tués depuis le mai 2018 durant les Maserat al-Aouda, les marches du retour. Donc, en termes d'intensité, on a vu bien pire. Ce qui change, c'est le contexte. On a des expulsions forcées à Sheikh Jarrah, notamment un quartier à Jérusalem-Est. Jérusalem-Est a été le théâtre, depuis 1967, d'expulsions forcées. C'est plus de 15 000 Palestiniens qui ont perdu leur résidence, donc qui ont été chassés de Jérusalem-Est. Donc une épuration ethnique qui est toujours d'actualité, qui s'est pas arrêtée à 48, et donc des Palestiniens à Sharjah qui font face à des mesures iniques et qui alimentent cette haine, qui alimentent l'extrémisme, puisqu'on déjà on a un rapport en 2012 qui parle des expulsions et des démolitions. Et que dit ce rapport de consul européen? Ces démolitions de maisons et ces expulsions ne servent à aucun intérêt de sécurité, mais sont clairement liées à l'expansion des colonies. Elles ont des conséquences humanitaires catastrophiques et alimentent amertume et extrémisme. Et évidemment, Sheikh Jarrah, mais aussi les provocations à l'Aqsa ont provoqué récemment ces escalades, ce qu'on appelle les escalades de violence donc, en Palestine, notamment à Gaza, où le Hamas, qui a voulu rétablir cette unité entre la Gaza et la Cisjordanie et Jérusalem, a décidé de répliquer. Et légitimement, dans la mesure où le droit international confère au peuple colonisé le droit à la résistance. La résolution 2621 du 12 octobre 1970, je cite, réaffirme le droit inhérent pour tous les peuples colonisés de lutter par tous les moyens nécessaires contre les puissances coloniales réprimant leur aspiration à la liberté et à l'indépendance. Le général de Gaulle le disait le 27 novembre 1967: Israël organise sur les territoires qu'il a pris une occupation qui ne peut aller sans répression, oppression, expulsion. Il s'y manifeste contre lui la résistance qu'à son tour Israël qualifie de terroriste. C'est une résistance qui est légitime. Et donc voilà, après, le contexte diffère, mais l'intensité, c'est une. Là,
Est-ce qu'il y a des choses différentes par rapport au précédent conflit?
déjà, le mot conflit, il faut faire attention à ce mot conflit parce que c'est un
N'hésite pas à me
mot.
corriger, hein. Je suis un inculte, n'hésite pas à me corriger dans ma
Non,
terminologie.
non, ne t'inquiète pas. Moi, des fois aussi, c'est vrai que c'est quand on veut se faire comprendre, on parle de conflit israélo-palestinien. En fait, c'est une terminologie bien sioniste. C'est les Israéliens qui parlent de conflit en hébreu. Ils disent Assir Israeli-Palestiné, le conflit israélo-palestinien. Donc voilà, c'est une sémantique qui a été imposée par le vainqueur, si on veut, par l'idéologie du dominant plutôt. Et donc, qu'est-ce qui change? Bah, le
C'est quoi le mot qu'on devrait
contexte,
utiliser
mon.
du coup? Qu'est-ce qu'on devrait utiliser à la place de conflit?
Apartheid, occupation, massacre, résistance. L'épuration ethnique, ce n'est pas une guerre. On a vraiment une puissance coloniale d'un côté et une population colonisée qui est victime d'une épuration ethnique. On peut définir hein, l'épuration ethnique. Je veux dire, ça a été défini par des juristes, notamment par Dražen Petrović, un professeur à l'université de Sarajevo. Une définition très pertinente qui est d'ailleurs mobilisée par Ilan Pappé dans son livre Le nettoyage ethnique de la Palestine. Ilan Pappé, qui est un Israélien antisioniste. Et il cite notamment cette définition de Dražen Petrović que je trouve très pertinente. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'épuration ethnique est une politique bien définie d'un groupe particulier de personnes visant à éliminer systématiquement d'un territoire donné un autre groupe sur la base de l'origine religieuse, nationale ou ethnique. Cette politique implique de la violence et se trouve très souvent liée à des opérations militaires. Elle est exécutée par tous les moyens nécessaires, de la discrimination à l'extermination, et implique des violations des droits humains et du droit international humanitaire. Et donc, c'est une définition que Dražen Petrović établit, et non pas pour la question de Palestine. À la base, il s'intéresse, lui, au conflit en Europe de l'Est, au nettoyage notamment ethnique en Europe de l'Est. Et Ilan Pappé la mobilise dans la question de la Palestine. Et c'est vrai que c'est ce qui se passe depuis 1948. On a bien une politique bien définie d'un groupe particulier de personnes, les dirigeants sionistes, visant à éliminer systématiquement d'un territoire donné un autre groupe, les Palestiniens, sur la base de l'origine religieuse, nationale ou ethnique. Cette politique implique des violations des droits internationaux humanitaires et se trouve très souvent liée à des opérations militaires. Et ces gens-là sont prêts à aller jusqu'au bout de l'extermination. Donc des massacres, notamment. Voilà, donc on a une définition qui colle bien à la réalité palestinienne. Donc le but, notamment des sciences sociales, c'est pas un langage militant. Quand on dit, ouais, les Palestiniens sont victimes d'un nettoyage ethnique, non, c'est un langage empirique, scientifique. C'est une réalité qu'on observe. Et on observe et on essaie de définir cette réalité à travers des mots. Voilà. Donc c'est ça qui différencie l'idéologie de l'empirisme du scientifique, c'est que l'idéologie, on va dire, bon, allez, on va dire tout et n'importe quoi, et on ne va pas pouvoir justifier les termes qu'on utilise par rapport à la réalité. On va dire qu'il y aura toujours un hiatus, un fossé, c'est ça l'idéologie, entre la réalité et les mots qu'on utilise. Alors que là, non, on a des mots
Oui.
qu'on utilise, mais qui décrivent une réalité qui est concrète. Il y en a une occupation, on a une colonisation.
qui est illégale. Je rappelle, illégale. La colonisation des territoires palestiniens est illégale. Les résolutions 446 du 22 mars 1979, 452 du 20 juillet 1979, 465 du 1er mars 1980 du Conseil de sécurité de l'ONU. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle stipule que la politique d'Israël au sujet de l'établissement de colonies de peuplement dans les territoires palestiniens occupés n'a aucune validité juridique et constitue une violation de la 4e Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et invite le gouvernement et le peuple israélien de cesser de manière urgente la construction, la création et la planification de colonies de peuplement dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem. Donc, ce que l'on voit à Sheikh Jarrah, on entend des gens, est-ce qu'on a des crimes de guerre? Ben oui, ce sont des crimes de guerre à Sheikh Jarrah. C'est un territoire occupé sous colonisation, et la colonisation est un crime de guerre au regard de l'article 49 de la 4e Convention de Genève, qui stipule que toute puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa population civile sur des territoires occupés par elle. Voilà. Le blocus sur Gaza est un crime de guerre au regard de l'article 33 de la 4e Convention de Genève. L'article 33 prohibe toute forme de punition collective. Le blocus, c'est une punition collective. On prétexte que le Hamas, lutter contre le Hamas, donc on impose un blocus à plus de 2 millions de personnes. Tout ça est illégal. Et on entend toujours des débats stériles. Est-ce qu'il y a des crimes de guerre? Est-ce qu'Israël est un régime d'apartheid? Ou le pire, c'est qu'on met sur le même plan, on renvoie dos à dos palestiniens et israéliens. Il faut arrêter. Il faut arrêter cette déformation. Il faut arrêter ce politiquement correct qui est complètement incorrect, en fin de compte, historiquement et dans la réalité. Et donc, voilà. Et donc, ouais, l'usage des mots est très important. Après, c'est vrai que conflit israélo-palestinien, franchement, bon, il y a certains militants qui l'utilisent même, tu vois, par abus de langage, parce que bon, c'est courant et que ça fait écho aux gens, tu vois. Ça fait écho aux gens, le conflit israélo-palestinien. Moi, je l'utilise, le mot conflit, mais avec des guillemets, voilà. Où je dis, on peut utiliser le mot conflit, mais il faudrait donner une définition de conflit qui soit adaptée, là encore, à la situation palestinienne. Est-ce que par conflit, on entend un conflit entre deux puissance égale, dans ce cas-là, ce n'est pas un conflit, ou est-ce que par conflit, on entend une population colonisée, une puissance coloniale qui réprime une population colonisée à son aspiration à la liberté et à l'indépendance. Dans ce cas-là, on parle d'un conflit asymétrique. On précise la nature de ce conflit. Bon, voilà.
Tu peux nous rappeler un peu comment est-ce que le gouvernement d'Israël légitime cette occupation et l'expansion de son occupation?
Il légitime à travers trois moyens, j'en parle dans mon livre. Mmh. Il utilise la Bible, le récit religieux, pour légitimer sa domination territoriale sur des territoires qui sont considérés comme occupés. La Cisjordanie, Jérusalem-Est, Gaza sont occupés, regard du droit international. Israël parle de, non pas de Cisjordanie, elle parle de Yehuda Veshomron en hébreu, donc de Judée et Samarie. Elle considère que ce sont non pas des territoires occupés, mais des territoires libérés depuis 1967. La colonisation n'est pas une colonisation, selon elle, c'est une implantation. Ce sont des implantations juives en Judée et Samarie. Et dans la plateforme du Likoud, on peut voir au sujet des colonies, des implantations selon eux, voilà, les implantations juives en Judée et Samarie sont l'expression du droit irréfutable du peuple juif à disposer de la terre d'Israël. Donc pour elle, c'est la terre d'Israël, c'est les anciens royaumes juifs à l'époque de David et de Salomon qu'elle veut rétablir. Mais on a ici une utilisation du religieux pour légitimer une domination territoriale et illégale. Voilà tout. À la base, les sionistes ne sont pas des religieux. D'ailleurs, Israël le savait déjà. Et d'ailleurs, beaucoup d'idéologues sionistes au début du XXe siècle disaient, voilà... parce qu'au départ, j'en parle dans mon livre, au départ, il y a eu beaucoup de questionnements par rapport au foyer juif. Certains pensaient à l'Argentine, d'autres l'Ouganda, et puis la Palestine paraissait une meilleure option. Pourquoi? Parce que, et Herzl le dit dans son livre « L'État des Juifs », Théodore Herzl, le fondateur du sionisme politique, il dit la Palestine représenterait un cri de ralliement pour le peuple juif. Et donc, puisque la Palestine est le centre spirituel du judaïsme, mais comme le rappelle Michel Abitbol, un historien juif, il dit, voilà, mais les juifs de France, mais les juifs en général, ont toujours pris soin de distinguer entre leur attachement pour la Terre sainte, légitime, et leur antipathie pour l'idéologie nationale. C'est-à-dire que, voilà, nous sommes attachés à la Palestine comme centre spirituel du judaïsme, et que pour nous, juifs français, européens, américains, au début du XXe siècle, il est inconcevable que nous nous rendons dans un pays qu'on considère comme étranger. Et d'ailleurs, la majorité des juifs qui fuient les pogroms, qui fuient les actes antisémites, prennent refuge en Amérique du Nord et non en Palestine.
Ouais.
On a un autre moyen pour légitimer ça, c'est la Shoah. La Shoah, l'Holocauste des Juifs, le génocide des Juifs, j'en parle dans mon livre. Je dis deux choses. Premièrement, que la Shoah est un événement tragique, non seulement pour les Juifs, mais pour l'humanité, et que sa commémoration est légitime, au même titre que d'autres génocides. Mais je rappelle que ce qui est dangereux, c'est son utilisation mesquine. Et donc, depuis 1948, les dirigeants sionistes utilisent la souffrance des Juifs pour légitimer la souffrance des Palestiniens, pour légitimer leur politique inique, pour justifier leur domination territoriale. Et d'ailleurs, Boaz Evron, un intellectuel israélien, au sujet de cette conscience de l'Holocauste en Israël, qui est exacerbée, qui prend des proportions telles, on a des Israéliens qui se rendent dans les camps d'Auschwitz, et on leur dit que finalement, on s'est libéré du nazisme, mais qu'on a aujourd'hui, on risque toujours un deuxième holocauste, notamment une Shoah enquéfiée, comme l'appelle Paul Ginevski, un livre que je démontre dans mon livre, où il dit voilà, que les Palestiniens veulent un holocauste des Juifs, ce qui est complètement débile.
Oui.
Et donc, Boaz Evron dit au sujet de cette conscience de l'Holocauste, il dit « La conscience de l'Holocauste, je cite, est un instrument d'endoctrinement de la propagande officielle, un ramassis de slogans, une vision du monde faussée dont le but n'est nullement la compréhension du passé, mais bien la manipulation du présent. » Donc, on utilise un fait historique, tragique, pour se donner une légitimité morale.
Oui.
Voilà. Okay. Et donc, il y a ça, il y a un autre aspect aussi que je développe dans mon livre, c'est la stratégie de la diversion utilisée par Israël, qui est de dire en fait, pourquoi nous? Pourquoi est-ce qu'on en veut à nous? Pourquoi pas la Syrie? Pourquoi pas l'Irak? Pourquoi pas le Soudan? Il y a d'autres situations d'injustice dans le monde. Pourquoi nous? C'est comme si un violeur disait, mais il y a d'autres violeurs à côté de moi. Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que Israël colonise depuis plus de 70 ans. Si on pense, on parle du mandat britannique, ça fait plus de 100 ans. Et Israël est le seul pays au monde pour lequel on trouve des excuses. Tu vois ?
Ouais.
Israël, on a boycotté la Russie. On a boycotté d'autres pays, l'Iran, etc. Il y a eu des sanctions, mais Israël est le seul pays pour lequel il n'y a pas de sanctions.
À cause des États-Unis ?
À cause des États-Unis, notamment du veto américain, qui empêche de facto la concrétisation, si on veut, des résolutions de l'ONU que j'ai citées,
ouais.
Qui empêche de facto la mise en place et de ces résolutions dans la réalité.
Oui. Et les États-Unis, ils ont un lien particulier avec Israël et supportent inconditionnellement, quasiment, j'ai l'impression, Israël.
Oui, mais ce n'est pas pour des raisons géopolitiques et d'intérêt. C'est des questions aussi qui dépassent aussi la raison.
Mm-hmm.
Ça n'a pas toujours été le cas, en fait. Ça a surtout été le cas, surtout après Reagan. Reagan, ça a été un pro-israélien, mais même après Kennedy, on a ce soutien-là, ce soutien américain. Militaire, idéologique en fait. On a toute une frange, notamment on a des lobbies hyper puissants aux États-Unis, pas seulement juifs, on parle de l'EPAC, mais je pense à ces lobbies chrétiens, ces protestants qui adeptent du dispensationalisme, qui pensent que L'émigration des Juifs en Palestine est un prérequis indispensable au retour du Christ. Et donc, par conséquent, on a des gens qui sont prêts à financer massivement l'émigration juive, la colonisation juive des territoires palestiniens, en vue de réaliser cette prophétie. Et donc, pour eux, voilà, l'établissement d'un État palestinien ira à l'encontre de cette prophétie-là. Donc, ils ont tout intérêt à court-circuiter, à saboter toutes les initiatives internationales qui visent à cela, donc à l'émergence d'un État palestinien à l'ouest du Jourdain. Et donc, voilà. Donc, surtout un soutien, bon, un soutien idéologique, pas du tout rationnel finalement, parce que bon, beaucoup de gens condamnent ce soutien inconditionnel, vraiment inconditionnel, à l'époque durant le mandat de Trump, ça a été, bon, ça a été là, tu vois, genre acté. Mais même avant, on se cache derrière des condamnations, etc. L'avantage de Trump, c'est que Trump disait, j'aime pas ce type-là, mais au moins lui avait l'avantage, c'est qu'il disait les choses ouvertement. Et donc, on savait où s'en tenir, quoi. Et du coup, une aide militaire à hauteur de 3,8 milliards de dollars par an. Ouais.
Plus le veto à l'ONU.
Oui, ça va avec. Hein, c'est un package, c'est tout un. C'est un petit abonnement, mais ouais. Ouais.
Actuellement, qui sont les plus gros alliés de la Palestine?
Dieu. Franchement, les plus gros alliés, je dirais, c'est avant tout les peuples, tu vois, les peuples. Et puis, je pense à l'Algérie, mais moi, je suis contre le système en Algérie, tu vois, je ne me cache pas. J'ai une grande animosité pour ce système qui est un système inique. D'ailleurs, il y avait un intellectuel qui disait, qu'est-ce que le pire? Est-ce que c'est la colonisation, l'occupation, la tyrannie ou la dictature? Il disait, c'est du pareil au même. Et je pense, je pense que il n'y aura pas de libération de la Palestine tant que le Maghreb sera sous des régimes iniques, par exemple. Et donc, voilà, donc ça c'était la parenthèse. Mais bon, j'en suis convaincu de ma part. Pour ce qui est des alliés, bon, il y a l'Iran. Il y a l'Iran. En tout cas, dans la politique, il y a l'Iran, bah, l'Algérie, les pays du Sud, notamment l'Amérique du Sud. Bon, l'Afrique du Sud, c'est autre chose parce que l'Afrique du Sud entretient des relations avec Israël. On a des peuples qu'on oublie parfois, donc en Écosse, en Irlande, donc pas seulement que des soutiens arabo-musulmans. Parfois, ces gens-là ont parfois plus de dignité que certains, et ce que beaucoup de dirigeants arabes et musulmans. Mais les peuples, oui, Dieu et les peuples. Dieu et les peuples, je dirais, en toute humilité, mais ouais.
Une question d'une auditrice qui m'a été posée dans le groupe Telegram. Comment sortir de la réaction seulement émotionnelle et quelles actions peut-on mener sur le long terme en faveur de la paix?
Bah, une chose à dire par rapport à l'émotion, par rapport à la passion, moi-même qui suis chercheur, je suis passionné, je suis passionné et parfois je réagis dans l'émotion. L'émotion n'est pas le problème. L'émotion n'est pas le problème. L'émotion peut être une bonne chose, c'est-à-dire que ça peut être, on peut être touché émotionnellement et ça peut être un déclic, tu vois. Oui, c'est vrai que bon, c'est une vraie bonne question dans la mesure où j'avais créé un post là-dessus où malheureusement, là, tout le monde a changé son profil Facebook, etc. C'est très bien, je veux dire, c'est très bien pour des manifestations, des rassemblements, même si je pense que les rassemblements sur le poids ne pèsent très peu. Par contre, ce qui peut être pas mal, et j'y ai réfléchi la dernière fois, en m'interrogeant sur la nécessité, l'intérêt des manifestations, c'est qu'il y a des rencontres qui se font à l'intérieur de ces manifestations. Moi, n'eût été la manifestation à Grenoble, je n'aurais jamais rencontré mon ami de Gaza et je n'aurais pas écrit mon premier livre, le second. Donc il y a des rencontres qui se font au cours de ces manifestations, au cours de ces rencontres, au cours d'échanges. Et c'est très important d'échanger, d'informer sur cette question. Et donc, ce qu'on peut faire pour sortir de ces émotions qui nous paralysent, c'est peut-être de trouver quelque chose qui inscrit un effort permanent ou qui, par échéance, par exemple, donner de l'argent à un orphelin, par exemple. Et je dis ça parce que chaque personne est différente. Moi, j'ai écrit, moi, je fais des études, mais c'est pas, je sais que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. D'autres ont d'autres qualités, compétences. Il y a des choses, il y a des gens qui vont pouvoir danser, il y a des gens qui vont crier, il y a des gens qui vont prendre le micro dans la rue, etc. Et chaque personne a ses propres compétences. Il y a des personnes qui vont réaliser des vidéos, il y a des personnes qui vont. Voilà, je blâme pas toutes ces initiatives, elles sont bonnes à prendre. Je pense que l'une des choses qu'il faut faire, c'est s'informer sur l'histoire. Sur l'histoire, sur qu'est-ce que le peuple palestinien, avoir des arguments. Et qu'on devienne, nous tous, des porte-parole et des défenseurs des droits du peuple palestinien. Je ne dis pas qu'on doit devenir tous des militants ou qu'on doit écrire de livres ou faire de la recherche comme moi, ce n'est pas ça. Allah n'impose à aucune charge, une charge supérieure à laquelle il ne peut supporter. Puis moi, Dieu a voulu que je fasse ça, d'autres font autre chose, donc ce n'est pas de l'arrogance ou autre, je fais ce que je peux. Mais voilà, il y a, je pense, malheureusement, et c'est ce que je dis à quelqu'un, si demain tu es face à un sioniste avec ses arguments, qu'est-ce que tu vas dire? Vive la Palestine libre. Qu'est-ce que tu vas lui dire?
Ça va pas être
Comment est-ce que tu
suffisant.
vas déconstruire ces mensonges? Il faut d'abord les connaître. Donc, il faut lire. Il faut lire, il faut comprendre comment la personne pense, sans forcément souscrire à ce qu'il dit, mais essayer d'avoir une certaine distance critique. Donc, c'est ça la question. Il faut se poser des questions tout à fait logiques et simples. Est-ce que demain, je peux être le porte-parole, le défenseur des Palestiniens dans la rue, dans le public? Dans une vidéo, on vit à l'heure des réseaux sociaux. Demain, il y a une vidéo et il y a un pro-israélien qui connaît à peu près la thématique et qui sait comment jouer sur l'émotion. Parce que eux, ils sont très forts pour ça. Ils ont que ça d'ailleurs, l'émotion. Le rationnel, ils connaissent pas. Ou voilà, ils vont un peu comme Schopenhauer, ils vont trouver l'art d'avoir toujours raison. Mais bon, c'est pas parce qu'ils ont la rhétorique qu'ils ont le fond, quoi. Nous, on a le fond. Nous, déjà, on sait qu'on défend une cause juste. Mais il faut y mettre la forme. Il faut y mettre la forme, il faut y mettre les arguments et être convaincu qu'on défend la justice. Et je te jure, moi, franchement, sans être arrogant, tu mets avec n'importe qui, je sais que je vais le battre. Parce que je sais que c'est pas de l'arrogance, je sais que je défends le droit, je défends la justice, la vérité. Et ça, personne ne peut me l'enlever. J'en suis convaincu. Il faut qu'on soit convaincu de cela et qu'on lise, qu'on s'informe. Voilà, je pense que c'est surtout ça. Il y a une ignorance telle. Si je demande à quelqu'un c'est quoi la Nakba, si je demande à quelqu'un de placer Jérusalem sur une carte, alors que moi je suis une bille en géographie, mais j'ai fait ces efforts-là, tu vois. Et je pense qu'on doit faire ces efforts-là à ce niveau. Donc s'informer, devenir vraiment des porte-paroles, des défenseurs. Chacun, tout à chacun, des droits du peuple palestinien. Et je pense que ça pourra jouer en autre conséquence. Et dépasser ce stade émotionnel qui nous paralyse. Nous paralyse. L'émotion est une bonne chose. Comme je te dis, ça peut être un déclic. Mais lorsqu'il n'y a que de l'émotion, ça devient paralysant. Ça devient paralysant.
Ce qui est frustrant, c'est
Après, au niveau des
qu'on n'a pas.
initiatives.
Oui, voilà, je te laisse. Je sais que tu allais terminer, mais vas-y.
Non, 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 au niveau des initiatives, il y a le boycott, il y a des campagnes BDS qu'on doit suivre, il y a des associations qui sont actives. Malheureusement, je veux dire une chose, moi, quand je vais à des conférences sur la Palestine, il n'y a que des vieux blancs de 40, 50 ans, 60 ans, de l'AFPS, Action France-Palestine Solidarité, qui sont là, quoi. Où est-ce qu'on est? Où nous, est-ce qu'on est en tant que jeunesse musulmane en France pour les Palestiniens. Où? On n'est pas là. On n'est pas là
Pas présent.
on n'est pas présent. On est présent, voilà, pendant quelques jours, lorsque les tensions, mais bon, et ensuite, dès que les tensions sont plus là, eh ben, on retourne à notre vie normale, on change de photo de profil et on attend la nouvelle effusion de sang pour crier notre colère.
Ouais.
Je suis limite devenu froid face à toutes ces injustices, dans le sens où c'est devenu limite habituel. Genre, pour moi, ce qui se passe ces derniers jours, c'est affreux. Mais limite, j'ai carrément eu l'habitude de ça, tu vois. J'aurais pas ce saut émotionnel, tu vois. Je vais être dépité, je vais être triste, parce que oui, ça atteint un autre niveau, mais je sais que l'injustice, avant cela, était là. Je veux dire, en Cisjordanie, à Gaza, les réfugiés palestiniens, dont on ne parle pas, en exil, qui sont en Europe, qui sont enfermés, qui sont en Syrie, qui sont au Liban, qui vivent dans des conditions catastrophiques. Voilà, il y a aussi cette extraterritorialité, ces gens de l'extérieur, et qui souffrent de politiques aussi, voilà, de politiques qui avaient été établies en 48 et qui ont des conséquences jusqu'à aujourd'hui,
Ouais.
et qui vivent sous la férule de régimes arabes qui s'en contrefichent, malheureusement.
Ouais.
Donc voilà ce que j'ai à dire. Et franchement, sans vouloir faire de la pub sur mon deuxième livre, Allah en est témoin, moi j'ai vraiment écrit le deuxième livre pour donner aux gens de la communauté et aux gens de ma génération, à la jeunesse en général, musulmane et non musulmane, des arguments. Et ça me tenait à cœur, tu vois. Genre, j'avais le cœur qui saigne quand j'écrivais, mais pour donner des arguments à tout à chacun, pour contrer ce discours sioniste, pour contrer cette propagande. Ça me tenait
Ouais.
vraiment à cœur. Et des fois, je suis en colère quand je vois sur les plateaux télé des gens dire n'importe quoi ou des gens ne pas être assez durs, assez
Ouais.
durs dans leurs arguments. Parce qu'il faut, quand on sait qu'on défend la justice, il faut y mettre le ton. Il faut mettre le ton. Je ne dis pas crier, c'est pas crier que je dis, c'est de mettre les mots, de mettre le ton, de mettre l'émotion. Parce que oui, on peut, dans la lutte, être dans l'émotion. Ce n'est pas un
Ouais.
souci, l'émotion.
Ouais.
Ce n'est pas un souci. Bien au contraire, l'émotion, la colère, c'est un moteur. C'est un moteur. Mais il faut savoir, voilà, la transformer en quelque chose de positif, en quelque chose de concret. Ouais.
D'accord. Juste pour revenir sur la partie de manifestation, participer à manifestation, j'avais entendu quelque part que un des effets qui on s'attend pas forcément, c'est que ça la réconforte de voir
Oui,
que leur
c'est clair.
frère.
Non, 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 sur, non, non, bien sûr que oui, non, sur l'aspect politique, sur
Oui, c'est l'aspect politique.
le. Bah, ça dépend en fait, parce que on peut faire des grandes manifestations ou mettre la pression sur nos gouvernements pour une réaction. Pour une réaction. En fait, bon, ça a des conséquences quand même. Bon, il faut. En fait, sur le long terme, ça n'a pas de conséquences, je pense. C'est surtout ça. En 2014, ça a eu des conséquences parce que le gouvernement français avec toutes ces grandes manifestations nationales, il y a eu des pressions. Je veux dire, il y a des gens qui communiquent avec les autorités israéliennes. Voilà, nous, on ne peut pas gérer, il faut que vous arrêtiez votre massacre. Voilà, donc c'est très bien. Donc, ça peut éviter sur le court terme voilà, des massacres ou la continuation des massacres. Mais sur le long terme, c'est ça en fait la question, parce que c'est la question que posait la question qu'on posait, c'était est-ce que sur le long terme, et c'est ça qui compte sur le long terme, sur les droits des Palestiniens, ok, on va éviter une pérennisation d'une effusion de sang, mais sur le long terme, en termes de droits politiques, est-ce qu'une manifestation a ses avantages? À des conséquences, je ne pense pas. Je ne pense pas.
Et du coup, est-ce que tu penses qu'il y a des choses à faire sur le long terme?
Ouais, comme je disais, s'informer, militer, et ça se fait pas en quelques jours. C'est pas en quelques jours. Mais j'ai bien
D'accord.
conscience que les gens ont leurs priorités, les gens ont leur famille, les gens. On ne peut pas tous devenir chercheurs, on ne peut pas tous devenir militants, ce n'est pas un souci.
Mais par exemple,
C'est
on a
pas.
vu récemment avec la communauté des Ouïghours, qui subit aussi des choses atroces, que certaines actions ont permis d'arrêter des contrats qui étaient prévus entre l'Union européenne et la Chine pour mettre pression. Et c'est pas possible de faire la même chose pour la cause palestinienne?
Si, bah, y a des initiatives qui sont faites dans ce sens-là pour la fin des contrats européens, mais là encore, on parle d'Israël. Israël a une sorte de... est protégé. Bah, après, il y a des intérêts politiques. L'Union européenne n'est pas une union composée d'États neutres. Je veux dire, et elles ont aussi leur propre politique, leur vision des choses, et que elles ont tout intérêt, pour certains, et notamment les États-Unis. Il y a aussi ça, les États-Unis critiquent, condamnent la répression des Ouïghours, mais ne va jamais le faire pour Israël, etc.
Ouais.
Bon, je m'interroge, je ne suis pas complotiste, mais quand même, on a plusieurs médias français qui ont relayé à juste titre, c'est très bien, la condamnation des Ouïghours, mais c'est quoi leurs intentions? Oh, je parle des intentions, la réalité est là, et les intentions, là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes choses pour les Palestiniens? Je te parle de certains médias français. Qui ne disent mot, qui ne disent mot, ou qui pire, qui parlent de la question palestinienne en renvoyant dos à dos palestinien et israélien. Pour moi, c'est la pire des choses. Je préfère le silence, que nous parler d'un énième conflit israélo-palestinien avec les Israéliens, les Palestiniens qui ne sont pas contents et qui se bouffent la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Je déteste ça. Je déteste cette bien-pensance, cette volonté de mettre sur le même pied d'égalité le colon et le colonisé. C'est comme si pendant la guerre d'Algérie, on disait, on renvoyait dos à dos Algériens et Français, ce qui est complètement stupide, et c'est ce qu'on faisait d'ailleurs.
Parfois, on a l'impression que même dans les personnes qui supportent la Palestine, il y a des concessions qui sont faites dans les tournures utilisées, dans la manière de présenter les choses.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Écoute, Yanis, on a fait le tour des questions des grosses questions que je voulais te poser. Je vais finir par quelques petites questions. Est-ce que tu as des recommandations de livres? Alors déjà, je mettrai tes deux livres que tu as sortis en description.
Alors ouais, le premier livre, Un pas vers la paix, Mémoire d'un jeune palestinien, j'ai pas de stock à la maison, mais il est disponible à Auchan en librairie. Mais j'ai tout un stock d'exemplaires de mon second livre, Palestine pour une paix juste, chez moi. Donc j'incite ceux qui m'écoutent et qui sont intéressés à ne pas acheter sur Amazon. Et si vous êtes intéressé à passer directement par moi, donc j'imagine que tu vas mettre en lien la page du livre. Et mon Facebook, voilà, ou mon adresse mail. Moi, ça me permet, bon, franchement, d'informer les gens sur cette réalité-là, de donner un savoir et aussi d'alimenter un nouveau savoir, puisque l'achat du livre me permet de financer ma recherche, comme je l'ai dit, doctorale consacrée aux Algériens de Palestine. Donc voilà.
Et du coup, est-ce que tu as d'autres références de tes top bouquins sur le sujet-là, sur ce sujet, ou bien d'autres sujets d'ailleurs?
Ben, le livre de Ilan Pappé, Le nettoyage ethnique de la Palestine, 1948, Israël-Palestine, vérité sur un conflit, entre guillemets, d'Alain Gresh, les conversations entre Ilan Pappé et Noam Chomsky, Palestine, aux éditions
Ok.
Galad en 2013, le livre noir d'occupation israélienne de 2013, bon, qu'il faut prendre aussi avec des pincettes, la préface d'Asif Sternel, elle contient des limites, notamment Asif Sternel, donc c'est un sioniste de gauche qui réclame la fin de l'occupation, mais qui s'oppose au droit au retour des réfugiés palestiniens, alors que le droit au retour des réfugiés palestiniens est garanti par le droit international, la résolution 194 du 11 décembre 1948. D'autres livres, donc
Est-ce
je
que tu as
commence.
aussi, ça peut être des sites internet, des vidéos, des documentaires peut-être?
Je ne suis pas
Comment ça
trop
peut?
documentaire, mais oui, il y a un documentaire qui était passé sur Arte il y a quelques années. Il faudrait que je retrouve le nom, mais peut-être que certains auditeurs connaissent le titre.
Je saurais pas
Après,
vraiment
c'est vrai qu'il y a des
t'expliquer.
gens qui ne sont pas à lecture. Hein, c'est pas... Moi, je me force à lire. À la base, je ne suis pas très lecture non plus, mais je me force.
C'est important.
Vraiment, je me fais violence pour lire. Parce que les livres ont cette Ouais, les livres, ouais, les livres, c'est un trésor. Il y a des trucs qu'on trouve dans les livres qu'on ne trouvera pas ailleurs.
Ok.
Ouais.
D'accord.
Mais j'ai toute une bibliographie dans mon livre,
Ok.
dans mon dernier livre, Palestine pour une paix juste.
Et finalement, comment on fait pour te suivre, te joindre, ta page Facebook, j'imagine?
Ma page Facebook, Yanis Arab, YA2ANISARAB, ou mon adresse mail, ou voilà.
C'est celle que je m'ai donnée? Tu peux la mettre en
Ouais, ça...
description?
ouais, tu peux la
Ok.
mettre.
Ok, très bien. Bah, je mettrai ça en description. Inch'Allah. Yanis, je te remercie beaucoup.
Compliqué, Abdallah.
C'est pas quelque chose qui nous rend heureux, mais il faut qu'on en parle. C'est quelque chose qui est important pour nous de s'informer. Et en
C'est
tout cas,
clair.
je te souhaite un bon courage pour la suite de tes travaux. Que Dieu t'accompagne et te mette la baraka et te facilite.
Merci pour ton invitation et merci à vous de votre écoute. Et j'espère que Wallah, Inch'Allah khair fi pour la Palestine et pour l'ensemble des peuples opprimés dans le monde. Il y a énormément d'injustices dans le monde, mais on essaie de s'accrocher. On sait que si ce n'est pas les hommes qui rendront justice, ce sera Dieu. Et on essaie de s'accrocher à ça. Et je sais que c'est à quel point ça peut être difficile et déstabilisant, mais. Alhamdoulilah, moi, la foi m'aide beaucoup. Et je pense qu'il faut vraiment s'attacher à ça, tu vois, pour ne pas perdre la boule finalement, parce qu'il
Ouais.
y a de quoi devenir fou avec tout ça. Il y a de quoi devenir fou. Mais Dieu est avec les justes et c'est tant mieux. C'est tant mieux.
Ouais.
Et franchement, je reste optimiste, malgré tout, sur ce qui se passe, parce que je sais que l'issue sera positive.
Ouais.
Il y aura un heureux dénouement. Et que rien n'est irréversible. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Et c'est avec ce fatalisme qui est de dire que les Israéliens contrôlent le monde, les sionistes contrôlent le monde. Non, c'est Dieu qui contrôle le monde.
Ouais.
C'est lui qui contrôle les univers et il faut s'en remettre à ça. Clairement, moi, j'ai du dégoût pour cette pensée-là qui est de dire qu'on ne peut rien faire, ils sont trop forts. Non, non, rien n'est impossible et la victoire nous appartient, clairement.
On verra peut-être pas les fruits de nos efforts maintenant ou plus tard, ou de notre vivant, on ne sait pas. Mais en tout cas, Dieu nous demande
Non.
juste d'agir comme on peut. Et puis, les conséquences, c'est Dieu qui décide quand est-ce qu'il aidera
C'est
et nous
clair.
aidera. Voilà. Je te remercie beaucoup, Yanis. Et à
Merci
bientôt,
beaucoup, je te remercie.
Inch'Allah. Et salam alaikum.
Alaykoum salam, Abdelrahman.
J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.